Vous les posez directement, et puis à la fin de la séance, il y a des questions sur l'ensemble du sujet, nous le reprendrons. Alors, le thème de l'étude de ce soir serait la relation entre le Shabbat et la Teshuvah. C'est-à-dire la relation entre l'idée du Shabbat, telle que nous l'avons déjà analysée jusqu'à présent, et d'autre part la notion de la Teshuvah, c'est-à-dire du repentir. Pour beaucoup d'entre vous, je m'en suis persuadé, vous connaissez déjà ce lien. Et si vous voulez, que, indépendamment des premières missions que nous avons analysées, et en particulier celle de la Menucha reliée à la Melacha, juste à donc l'analyse d'hier soir, le lâchement de l'analyse d'hier soir, il y a un lien direct dans les textes entre le Shabbat et la Teshuvah. Pour le dire en français très simplement, que le Shabbat n'est pas seulement le jour du repos, repos n'étant pas non plus seulement cessation d'activité comme nous l'avons vu, mais menucha en hébreu, achèvement du processus, effort de vivre, accomplissement. Et donc le Shabbat n'est pas seulement lié à la notion de Shvita, mais menucha, il est aussi relié à la notion de Teshuvah, et beaucoup de textes montrent les analogies de sémantique qui est entre les deux termes, et en particulier, nous arriverons dans un des déroulements de l'analyse à un enseignement du Midrash, selon lequel c'est Adam Harishon, le premier homme, qui a prononcé, lorsqu'il a compris que la Teshuvah était possible, qui a prononcé « Mizmor Shir Leyom HaShabbat ». Et nous arriverons donc à cette analyse. C'est le thème général. Alors je commencerai par la lecture d'un chapitre d'Isaïe, qui nous fournira le premier thème, c'est le chapitre 56 d'Isaïe, lequel est, à partir des derniers versets du chapitre 55, à partir du verset 6 du chapitre 55, oui, le chapitre 55 a 13 versets, donc à partir du verset 6 et pratiquement, pas complètement, mais pratiquement tout le chapitre 56, c'est une haftara. Vous savez ce que c'est que la haftara? Tout le monde, ce sont les passages des prophètes que l'on lit à la clôture de la lecture de la Torah, chaque Shabbat ou chaque fête, ou aussi les jours de jeûne. Et en particulier, cette haftara est dite les jours de jeûne. En particulier, si vous voulez, pas plus loin que dimanche dernier, à Shirasar Betamur, nous avons inclus cette. Alors, je ne commence pas au début de l'Aftara, Birshu Hashem Veimatseo, mais au début du chapitre 56, tout le thème étant d'ailleurs la Teshuvah. Ko Amar Hashem, premier verset. Ainsi a dit Dieu, je traduis Hashem par Dieu, Shimru Mishpat Va'atsu Tzedaka, observez le jugement et faites la justice, Kikerova Yeshuati Lavo, car mon salut est proche de venir, et Tzidkati Leigalot, et ma justice, c'est-à-dire le fait que ce que je fais est juste, de se dévoiler. C'est clair pour le mot tzidkati. Le fait que, si j'en dis, c'est Dieu qui parle, le fait que je suis tzadik. C'est-à-dire, quels que soient les doutes, les perplexités, que ce soit d'ailleurs des doutes entiers ou des demi-doutes, chassidus, mais quelles que soient les perplexités et les doutes, et il se dévoilera au moment du salut, ma tzidkati, ma tzedaka, le fait que je suis tzadik v'yachar selon les autres expressions des prophètes. Deuxième verset sur lequel je vais revenir dans l'étude, Ashrei Enosh Yaaseh Zot. Heureux l'homme, retenez bien le mot de Enosh dans ce verset, pour dire l'homme. Vous savez qu'il y a deux termes en hébreu pour dire l'homme. Le terme général, c'est Adam, c'est-à-dire l'identité humaine générale en chacun, c'est Adam. Chacun est un Ben Adam. Mais il y a d'autre part le mot Enosh, d'où vient d'ailleurs le pluriel de Ish ou Isha. Ish devient Anashim, Isha Nashim, ce nom vient de la racine Enosh. Sémantiquement, si vous voulez, on retrouve ce nom dans les autres langues sémitiques. Par exemple, en araméen, Nas, Barnas, Barnash, d'ailleurs aussi, qui est passé dans les dromadaires d'ailleurs, pour dire Barnache. C'est ça ? Ah bon ? Mais alors les autres là ? Bon, ça va rien, ça va venir. Et je disais donc que le mot de Enoch, qui est employé dans ce verset, signifie l'homme, Ashrei Enoch, heureux l'homme, mais je voudrais préciser l'usage du mot. Adam, c'est donc l'identité humaine en général, donc en chacun. Chacun est un Ben Adam. Nous participons de l'identité qui est nommée Adam. Tous, quel que soit le chacun. Mais Enoch désigne précisément ce que chacun est en tant que Ben Adam. Dans le Enoch, il y a plus le nefesh individuel de chacun. Donc, Ashrei Enoch, il y a à ses autres, heureux l'homme, ainsi entendu, qui accomplit cela. Il y a assez d'autres qui fait cela, d'autres. Ou Ben Adam, Yahazik Ba, est le fils de Adam, et le Ben Adam est l'homme, mais dans le sens générique, qui s'y tient, Yahazik Ba, Shomer Shabbat Mechalelo, qui observe, préserve le Shabbat de le profaner, Shomer Shabbat Mechalelo, le Shomer Yado Me'asot Kolra, et qui préserve sa main de faire tout mal. Donc, aucun mal. Et ce qui apparaît immédiatement dans ce verset, donc d'Isaïe, c'est le lien entre l'alliance du Shabbat et la loi morale. Nous en avons déjà parlé dans les analyses précédentes, et ici, ce verset récapitule ce sujet. C'est-à-dire, le prophète ici parle ensemble, en même temps, mêmement, si j'ose dire, de l'alliance du Shabbat et de la loi morale. Vous vous souvenez du lien, le jour du Shabbat, c'est le jour de la Torah. La Torah, c'est la loi du jour du Shabbat. C'est bien clair. Je voudrais revenir sur ce verset, mais je voudrais quand même d'abord lire le passage. Ve'ayomar ben anechar anilva el Hashem. Et que ne dise pas le fils de l'étranger anilva el Hashem, qui s'adjoint à Hashem, les mots, qui ne dise pas ce qu'il dit habituellement lorsqu'il le dit. Et là, il y a allusion au thème que nous avions vu dans la première Gemara de Sanhedrin, le premier soir d'étude, Kor Adam, l'Eramal Yulad, l'Eramal Nivra, chez Nehemar, d'après le verset de Job, qui Adam, l'Eramal Yulad. Vous vous rappelez de cela? C'est-à-dire que, très rapidement, nous abordons ce point du sujet. Bon, c'est très clair, le monde est dans l'état de Shabbat pour que le Hamal de l'homme se fasse, mais la loi de ce Hamal, c'est la Torah. Et ceux qui sont en dehors de l'alliance de la Torah. Oui, de quoi parle Isaïe ? Et que ne dise pas le fils de l'étranger qui s'adjoint à Hachem, qui ne dise pas ceci, « Havdel yavdila ni Hachem me'al amo » Dieu m'a séparé du dessus de son peuple. Ce « me'al amo » est difficile. Enfin, ça nous prendrait trop de temps. Simplement notez-le. Vous voyez donc quelle est la formule qui est citée. Et qu'on ne dise pas, mais oui, mais moi qui ne suis pas d'Israël, puisque la Torah du Shabbat concerne l'alliance du Shabbat, et la Torah concerne Israël. Béchamrou, Béné Israël, vous vous rappelez de tout cela, et aussi du fameux texte que j'avais cité, donc, je pense que c'était hier, Goy, c'est Shomer Shabbat, Hayamita. Donc. Ben Anechar, Nilva El Hashem, les mots, Avdel Yadila, Ni Hashem, et Alamo. Et Ve'aliomar Asaris, et que ne dise pas le nuque. Il faut traduire littéralement, et ça veut dire celui qui n'a pas d'enfant. Donc le Ben Necha, l'étranger à Israël, et le Saris, celui qui n'a pas d'enfant, à l'intérieur d'Israël. Hen Ani Et Yabesh, me voici, je suis un bois desséché, qui Choamar Hashem, car ainsi dit Hashem, la Sarisim, aux eunuques, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas de tolado concrète, génétique, disons, Asherishmeru et Shavetotai, qui préserveront mes Shabbatot. Vous vous rappelez de cela quand nous verrons tout à l'heure un texte du Tritzadik et du Gaon, la source dans le Gaon, que les Moadim aussi sont appelés Shabbat, les fêtes aussi, et pas seulement le Shabbat est appelé Shabbat. La différence qu'il y a entre le Shabbat du Shabbat et le Shabbat de la fête, c'est qu'il n'y a pas de différence, sauf que le Shabbat de la fête, tout ce qui est Ochel Nefesh, tout ce qui est préparation de la nourriture est permis. Dans un Shulchan Aruch très compliqué comme tout Shulchan Aruch, référez-vous à votre avis habituel, mais c'est la différence, si vous voulez, globale. Donc je reprends le verset. Qui roi marachem la salissi marchérichmer au chavetotai. Ainsi dit Dieu à ceux qui sont sans un peu dans le sens de Harini, sans descendance, comme Abraham était avant d'avoir enfanté Isaac, ou engendré. Ou Baharou Bacher Hafatsi, ceux qui préservent mes Shabbatot. Ou Baharou Bacher Hafatsi, et qui ont choisi pour ce que j'ai désiré. C'est-à-dire, c'était le problème au niveau de la loi morale. D'un côté le Shabbat, deuxièmement la loi morale. Comme nous l'avons analysé hier, vous rappelez la dialectique hétéronomie, autonomie de la loi morale. Hétéronomie, ça veut dire Asher Hafatsi, ce que Dieu a désiré. Les valeurs sont les valeurs parce que Dieu les a voulues. Ainsi. Mais Baharou, c'est autonomie. Je veux, moi, ce que la valeur veut. Ou Baharou, Asher Hafatsi, ou Mahaziki et Mevriti, et qui s'en tiennent à mon alliance, Benatati Laem, je leur donnerai, Bebeti ou Promotai, dans ma maison et dans mes murs, Yad Vashem, mais et non, littéralement, top, meilleur, mi banim ou mi banot, que les fils et les filles qu'ils n'ont pas. Vous comprenez l'idée qu'il y a dans le... Soit que le Yad Vashem, maintenant, ça veut dire autre chose, mais je leur donnerai présence et kavod, et réputation. Shem. Shem Olam et Tenlo, à chacun d'entre eux, je donnerai un nom pour l'éternité, Hashem Lo Yikaret, qui ne sera jamais retranché. Ou Vneranecha, et les fils de l'étranger, Anilvim al Hashem, qui s'adjoignent à Hashem, en entrant dans le peuple d'Israël. Et il y a là une indication assez importante que je signale en passant, c'est que donc tout se passe comme si un guer, d'emblée considéré comme membre de la tribu de Lévi. Regardez le verbe employé. Vneranecha, Anilvim. C'est clair? Alors, on est bon. À l'Hachem, les charretteux pour le servir, ou la Hava et Shem Hachem, et pour l'aimer, pour l'amour du nom de Hachem, les Yotol Havadim pour en être ses serviteurs, Kol Shomer Shabbat Mechalelo. De nouveau, l'expression revient, et là, vous notez, c'est au verset 6, la première fois, c'était au verset 2, ici, c'est au verset 6. Tout celui qui préserve le Shabbat Mechalelo de le profaner, ou Mahaziki Mibriti, et qui s'en tiennent, qui s'affermissent et raffermissent à mon alliance, je les amènerai, je les ferai venir à la montagne de ma sainteté, à ma montagne sainte, Martim Bebet Tefilati, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et là, quand même, la forme de l'expression est importante, tant pour Harkochi que pour Bet Tefilati. C'est-à-dire, du point de vue de la traduction, c'est clair, ça veut dire ma montagne sainte, ma maison de prière, mais la littéralité nous fait lire autrement, la montagne de ma sainteté, la maison de ma prière. Et à partir en particulier de la deuxième expression, la Gemara et la Midrash, dit que Dieu a une prière, que Dieu aussi prie, puisqu'il a dit ici, ha tefilati. Qu'est-ce qu'il y a dans sa prière? Yahir Aton Milefanaï, beaucoup de choses suivant les textes, mais comprenez déjà cette. Catégorie. Ça rattache un peu à la catégorie que nous avons vue hier, que au moment de la création du monde, Dieu avait des souhaits. Et ça va dans le qu'il réussisse. En l'Otehem, Vejibhem, les Ratson, Anisbechi, leurs offrandes de Rola et leurs offrandes de Zevar, je ne traduis pas, mais c'est offrandes, les Ratson, Anisbechi seront agréés sur mon autel. Et il s'agit tant de Bnei Hanecha que aussi des Sarissim, les Sarissim, ça va de soi, mais les Bnei Hanecha, qui bêtit car ma maison, Bet Tefila, maison de prière, Yekikare, sera, et prière, ça veut dire demande. C'est bien clair, Tefila, c'est la demande de ce qui manque. Ikare de la Bracha sera nommé l'Echol Amim pour tous les peuples. Et là, donc, il y a la fameuse vision de l'universalité du temple de Jérusalem. Beti, Bet Tefila, Ikare, Lechola. Verset 8, Neum Adonai Elohim, parole de foi de, mais parole de Adonai Elohim, Mekabet contre Israël, qui rassemble les exilés d'Israël. Je reviendrai sur cette expression parce que ça ne signifie pas purement et simplement les exilés d'Israël. Nitre Israël, Rod, Akabet, Allah, Venikbatsa, encore, je les rassemblerai pour les adjoindre. aux hommes de Shivat Sion, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas nitrés Israël, mais je vais expliquer tout de suite. Et puis je m'arrêterai là d'ailleurs. Nitrés Israël, les Nidahim, et nous avons l'habitude de dire les exilés. Mais en réalité, il faut prendre les choses un peu plus à la lettre. Et vous savez qu'après le schisme, après le temps du royaume de Salomon, il y a eu donc deux royaumes. Le royaume d'Israël, qui était le royaume du Nord, et le royaume du Sud, qui était la Judée, le royaume de Juda. Or, lorsque les textes, surtout les textes prophétiques, parlent des Nitrés Israël, il s'agit des exilés de l'ancien royaume d'Israël qui s'est perdu. C'est-à-dire que ces hommes et leurs descendants ne savent même pas qu'ils sont les Nitrés d'Israël. Il ne s'agit pas des Juifs de l'exil. Les Juifs de l'exil, ce sont les descendants des Judéens qui savent qui ils sont et qu'ils sont dans l'exil. Est-ce que c'est bien clair? Et comparativement, numériquement, si vous voulez, les Nitrés Israël sont beaucoup plus nombreux, bien entendu, que les Juifs de l'exil, qui se connaissent comme tels ou qui sont connus comme tels, quoique, d'une certaine manière, intérieurement, à l'intérieur du peuple juif de l'exil, il y a déjà, depuis des siècles, aussi cette différence. Ceux qui se connaissent comme tels et connus comme tels, et ceux qui ne se connaissent pas. Je veux dire, chez les Yehoudim de la Galoute, il y a aussi les Nidahim. Alors vous voyez la différence entre Nidah et Golé. Les Golim et les Nidahim. Nidah, c'est un mot beaucoup plus fort. C'est-à-dire ceux qui ont été repoussés à un point tel qu'ils sont hors des limites de l'identification. Nidah. On ne sait pas où ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. Je dis une explication maintenant strictement personnelle. Je pense que nous devons rattacher cela à la différence des étapes du premier retour du temps du Machiav Ben Yosef, qu'on appelle Shiva Tzion, que nous vivons actuellement, et du deuxième retour du temps de Machiav Ben David, qui lui a pour objet les Nitrés Israël, et non pas les Juifs de l'exil. Est-ce que c'est bien clair? Bon, bien entendu, simplement je jette cette perspective, c'est un problème pour lui-même, mais pour éclairer en tout cas l'intention du texte ici. Et que même ceux qui sont les Nitrés Israël, c'est-à-dire encore dans une catégorie moins identifiable que les Guérim, les Bnei Anechar, qui ont un problème de se dire, est-ce que j'aurai la même part que ceux qui sont nés d'Israël? Et ici, Isaïe repousse le problème, il dit, il n'y a pas de différence. Bien, je pense que c'est clair. Ou ceux d'Israël qui ne participent plus au Toladot du Ben Adam, parce que ça s'est arrêté quelque part pour une raison que ce soit, ça risque. Bien. Mais encore une troisième catégorie, beaucoup plus clandestine, si j'ose dire, les Nitrés Israël. Alors je pense que pour éclairer le problème, c'est plus qu'une question de vocabulaire, c'est une question de catégorie. Il y a d'abord Shiva Tzion, et ensuite il y a une deuxième étape qui nous est encore absolument mystérieuse. Maintenant, déjà la première nous était mystérieuse il y a à peine une centaine d'années. Et comment les Juifs de l'exil allaient s'y prendre pour Shiva Tzion? Bon, maintenant nous vivons ce mouvement, mais comment les Nitrés Israël s'identifieront et reviendront au temps du Machiav Ben David? Tout ce que nous savons, c'est que c'est dans le programme, mais comment, quoi, quand, mystère. Bien, je pense que c'est clair. Mais il y a là donc cette indication qui est assez importante. Alors je reviens au verset 2, surtout sur l'expression Shomer Shabbat Mechalelo, que nous avons donc retrouvé aussi au verset 6, Kol Shomer Shabbat Mechalelo. Pour lire la Gemara suivante, qui se trouve à la page 118b de la Gemara Shabbat, la Masechet Shabbat. Nous allons lire sur ce verset l'enseignement suivant. Amar Rabbi Chiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chiya Baraba a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, Kol HaMeshamer Shabbat Kehil Chato, tout celui qui observe le Shabbat selon sa loi, Kehil Chato, ça veut dire dans le détail du comportement, selon la halakha, c'est-à-dire pas être Shomer Shabbat grosso modo, mais Shomer Shabbat au niveau des actes, au niveau du comportement, selon la halakha, vous comprenez quand même la différence, il y a là ici une précision importante, Kol HaMeshamer Shabbat Kehil Chato, Afilou Oved Avodazara Kedov Enosh, même s'il est idolâtre, comme au temps de la génération de Enosh, Alors tout de suite, court-circuit avec le verset, je rappelle le verset. Asheré enosh, asher ya'asezo, ou ben adam ya'hazikba, shomer shabbat mechalela. Vous voyez, la relation avec enosh, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, qui était ce enosh dont il est parlé ici. Vous verrez d'ailleurs que sur la Gemara, certaines éditions portent afilu over avodazara kedor enosh, même s'il s'agit de quelqu'un qui est idolâtre comme au temps de la génération de enosh. D'autres textes mettent entre parenthèses le kedor et lisent même s'il est idolâtre, comme Enosh lui-même, et Enosh, Mohalino, on lui pardonne. Alors, avant d'aller plus loin, je vais définir les données de l'enseignement qu'il y a là. C'est-à-dire, on a affaire à un idolâtre. Qu'est-ce que c'est qu'un idolâtre par rapport à notre problème? On a affaire à un idolâtre, et on dit que si cet idolâtre est Oved Avodazara Kedor Enosh, mais qu'il observe le Shabbat, Pierre Kahalacha, on lui pardonne d'être idolâtre. Je vais aller lentement parce que c'est surprenant tout ça, dans tous les détails. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire être Oved Avodah Zara, être idolâtre pour ce sujet, pour notre sujet? C'est évidemment ne pas reconnaître le Shabbat. Comment? D'où la contradiction en fait. Comment vous expliquez ça? Rappelez-vous, il y a deux cours. Quel est l'objet de l'alliance du Shabbat? C'est dit en toute clair dans le Kiddush du Shabbat matin, que nous avons étudié dans le Kiddush. Oh, Jil et Olam, qui? L'alliance du Shabbat a ceci comme témoignage que. Que Dieu a fait le monde. Qui est un créateur. Qu'est-ce que c'est un idolâtre? C'est d'ailleurs celui qui ne reconnaît pas que Dieu est un créateur. C'est clair? Voyez comment est le lien. Alors, j'avance en raisonnement, mais je reviens tout de suite sur les détails. C'est-à-dire, si on a affaire à quelqu'un qui ne reconnaît pas la création du monde, il est idolâtre. Bon, je l'analyserai après pour un peu enrichir, si vous voulez, l'évidence. Mais voilà, il est chômeur Shabbat. Alors, il annule son idolâtrie en étant chômeur Shabbat. Est-ce que vous suivez le raisonnement? C'est plein de... Vous devriez bondir parce que c'est plein d'objections, tout ça. Très bien, très très bien. Ça, on va y arriver, mais vous anticipez. Oui, ça a l'air d'être compatible. Bon, on va arriver à cette solution, mais il faut d'abord bien maîtriser les données de la difficulté. La solution est simple. On n'a pas encore compris, mais on a entendu. Mais je veux d'abord qu'on comprenne bien les données du problème. Alors je reprends les analyses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être idolâtre, être Oved Avodah Zara, dans la définition biblique? Eh bien, nous allons d'abord reprendre la définition de base. Qu'est-ce que la Bible entend par l'idolâtrie dite Avodah Zara? En fait, comme vous savez, et originalement, d'ailleurs, même si dans le temps contemporain, il y a X types d'idolâtrie à identifier par analogie, mais laïciser par rapport à ce qu'étaient les paganismes antiques, finalement, en fin de compte, ça revient au même, c'est reconnaître comme divinité des forces du monde créé, et donc nier dans le principe le Créateur. Est-ce que c'est l'inverse? L'idolâtrie de base condamnée par la Torah, si vous voulez, contre laquelle la Torah a été révélée, c'est l'idolâtrie astrologique. C'est Avodah Zara, c'est-à-dire Ovde Kochabim ou Mazalot. Akumaz étant les initiales de Ovde Kochabim ou Mazalot, en général, Akumaz, en otaricum, en anagramme. Anagramme, c'est Ovde, ce qui sert, Kochabim, les planètes, ou Mazalot et les constellations. Et vous vous rappelez, nous avons certainement souvent parlé de cela dans notre étude, que, prenons par exemple la mythologie grecque, le paganisme grec, l'Olympe des Grecs, ce n'est évidemment pas par hasard, que les Grecs donnaient à leur divinité des noms de planètes. C'est-à-dire une espèce d'identification, de diagnostic d'un certain type de force, d'idole, entre guillemets, il ne s'agit pas de la statue qui représente la force dont on parle, mais de divinité païenne, à qui spontanément on donne apparence humaine, mais désignation de force cosmique, désignation de force astrologique. Hein? Alors on adore Jupiter, on adore Saturne, on adore Vénus, etc. Comment ? Non, non, non. Bon, ça c'est un problème qui fait de culture générale, donc c'est aux dieux qu'on a donné les mêmes planètes. Les païens de l'Antiquité étaient quand même plus intelligents que ça. Non, ils avaient leur chorma de l'astrologie. Non, c'est l'inverse. Bah, bon, je dis bien qu'il y a ici toute une question de vocabulaire à élucider, mais c'est dans ce sens-là que ça va. Par exemple, aujourd'hui, comme on dit que c'est un vocabulaire de la jeunesse contemporaine, mais pas seulement contemporaine, qu'on a des idoles. On les appelle même les stars, les étoiles. Et donc, il s'agit là d'une forme, d'une manière ou d'une autre, de paganisme laïcisé, peut-être beaucoup plus nocif, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et peut-être dans le sens de ce qu'on a étudié hier, esper betor esper, vous rappelez le massard double, l'opacité double. Et donc, du point de vue de tout le développement du Midrash concernant la controverse entre les hommes de la Torah et les hommes du paganisme antique, là, il s'agit bien de cela. C'est-à-dire la mythologie antique, le paganisme antique avait toute une liturgie personnalisée, mais de force cosmique. Et l'essentiel de leur idolâtrie, c'était bien évidemment d'avoir diagnostiqué, mais divinisé, ces forces qui, pour l'univers de la Torah, sont des forces réelles, et des forces transcendantes par rapport à l'homme terrestre. Des forces auxquelles nous sommes soumis réellement, mais l'idolâtrie consiste non pas à les diagnostiquer, mais à s'y soumettre comme Ovde Avadim de Kochavim ou Mazalot. Okay? Je pense que c'est bien. C'est-à-dire, lorsque les Égyptiens, par exemple, pour prendre la mythologie égyptienne du temps de la sortie d'Égypte, adoraient un bélier en effigie ou un taureau en effigie, il est bien évident que il n'était pas à la hauteur de la superstition pure et simple d'adorer l'animal, mais ce qu'il représentait par cette forme animale est que la constellation du chien, c'est autre chose que le chien dans les textes de l'Antiquité. C'est de la constellation dont il parlait. Mais il diagnostiquait dans la forme animale considérée la personnalisation biologique de la force astrale dont il voulait parler. Bon, c'est un sujet extrêmement vaste et délicat. En deux phrases seulement, et puis nous avançons, il faut bien savoir que ces forces sont réelles, mais que l'idolâtrie consiste à les diviniser et à s'y soumettre. C'est-à-dire, tout l'objectif de la Torah, c'est de nous donner les moyens de déconnecter de ce déterminisme-là. C'est-à-dire, l'objet de toutes les mitzvot, mais de certaines mitzvot privilégiées en particulier, je ne vais pas aller trop dans le détail, c'est de briser cette influence-là. Nous sommes soumis dans chacun des paysages de la constellation. Considérés, nous sommes soumis à ces forces et le comportement des mitzvot de la Torah a pour objet de briser cette force-là, de nous dépaganiser, en prenant le mot de païen ici dans son sens étymologique, c'est-à-dire l'homme d'un certain paysage est conditionné par lui. Et la pratique des mitzvot brise ce conditionnement. Bon, dans le temps contemporain, il s'agit donc des doctrines déterministe. C'est-à-dire, la doctrine déterministe, le matérialisme déterministe, c'est la même chose que l'astrologie antique, mais laïcisée. C'est-à-dire, on ne diagnostique plus, à la manière des hommes de l'Antiquité, les influences cosmiques, mais on parle des lois de la nature. On parle de la détermination des lois de la nature. La mentalité est la même, et probablement d'ailleurs aussi. Le contenu et le folklore et la culture qui en résident. Bon, j'ai cité tout à l'heure en passant que le vocabulaire populaire a gardé cela comme paratavisme, mais c'est très révélateur. Très révélateur que, pour dire une idole, on dit une étoile. Peut-être que ça méritera d'être gardé dans l'humanité future au niveau du langage poétique, parce que c'est joli. Mais en tout cas, il faut démythifier tout cela, bien évidemment. Alors donc, première définition, la définition de l'idolâtrie, c'est cela. L'idolâtrie comme telle est la négation de l'alliance de la création. Rappelons-nous donc du texte d'avant-hier, le Shamrou Bnei Israël à Shabbat, en vue de quoi ? C'est que si on ne restitue pas ce témoignage que le monde a été créé, mais est devenu le monde du septième jour, on oublie. Il faut donc restituer cela. C'est cela qu'avaient oublié les paganismes de l'Antiquité. Je pense que c'est clair. L'objet de l'alliance du Shabbat comme témoignage, c'est de rappeler que le monde a un créateur. Deuxième élément donc, de notre analyse, et qu'est-ce que ça veut dire que la Meshamer Shabbat et il Chato, Afilou, Ovel Avodazara et Lorenoj, Mochalim, on lui pardonne. Je vais d'abord essayer d'expliquer le contenu et ensuite le raisonnement du Talmud, d'après le Maharsha que je vais vous citer meilleur. Et c'est là que nous arrivons à votre réponse. Mais si d'autre part, quelqu'un, et après on verra que c'est le même quelqu'un dans notre cas, si d'autre part quelqu'un pratique vraiment le Shabbat, c'est-à-dire le septième jour de chaque semaine, considère vraiment le monde comme créé et non pas la nature qu'il s'approprie, alors il y a contradiction chez cette même personne entre sa croyance, sa pensée et d'autre part son comportement. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Pas encore. Ben alors, je vais l'éclairer, maintenant on ne quittera pas tant que ce ne soit pas suffisamment clair. Je vais l'éclairer par un autre thème. Lorsque nous prenons, ça c'est une parenthèse peut-être de quelques minutes, mais ça vaut la peine de marcher dans ce chemin. Parce que nous prenons le texte des 10 commandements. Alors nous allons le prendre, si vous voulez, dans la paracha de Yitro. Alors, vous avez donc le texte, je vous le donne tout de suite. À partir du chapitre 20, à partir du premier verset du chapitre 20, et c'est donc à la page 48 de ce note dans vos livres. Bon, mais nous n'aurons pas besoin du détail du texte, mais peut-être c'est important d'avoir quand même ce que je veux dire. Vous savez que nous avons l'habitude, je rappelle une analyse que certains d'entre vous connaissent déjà, certainement. Vous savez, nous avons l'habitude de dire les 10 commandements. Et en hébreu, ça se dit « aseret adiberot ». Il y a une discussion chez les poskim, chez les décisionnaires, de savoir si chacune de ces paroles « diberot », et encore, c'est pas exact « parole » ici, c'est pas « devarim », c'est quoi qu'il y a une expression, une fois « aseret adevarim », mais on a l'habitude de dire « aseret adibero » et « dibra », c'est pas exactement la même chose que « davar », mais traduisons « parole ». Chacune de ces paroles peut avoir plusieurs versets, ou au contraire, une partie d'un verset dans l'auteur. Mais, donc, les décisionnaires discutent de savoir si les 10 sont des mitzvot, sont des commandements, en particulier, ou si seulement les 9. Qui avait posé la question, si c'est 9 de nouveau. Et seulement les 9 dernières. Et que la première parole ne serait pas un commandement, mais une sorte de proposition de définition, je vais expliquer, d'introduction à 9 commandements. Je vais retenir cette deuxième thèse. Il y a bien 10 paroles, mais non pas 10 commandements, il y en a 9 dans les 10 paroles. Et cette thèse a été enseignée, comme je vais la rappeler, par Rabbi Chia, à ne pas confondre avec le Rabbeinu Bechaye ou Rabbeinu Bachia, ou Pakuda, c'est encore un autre, c'est Rabbi Chia Hanassi, qu'on appelle aussi Rabbi Chia Sfaradi, qui était un rabbin espagnol du XIe siècle et qui vivait au sud de la France. Et qui en particulier a écrit un livre extrêmement important qui s'appelle Higayon al-Nefesh, la dialectique du Nefesh, la logique du Nefesh, de la personne donc, et qui l'explique de la manière suivante. On verra d'ailleurs de le rattacher au Rashi que nous avons vu à propos de l'étude que nous avons eue donc cette semaine de Shamor Vezachor Vedibur Echad, que Rashi avait cité sur le premier verset, que les 10 commandements sont dans ce cas. Et ça, je n'ai pas encore expliqué, alors j'en profite que maintenant, par liaison, que pas seulement Shamor et Zachor, mais les 10 paroles chaque fois, les deux textes, en fait, il n'y a eu qu'une seule révélation, mais les 10 paroles ont été dites dans le même dibour. Et nous, rappelez-moi si j'oublie dans la lettre. Alors Rabbi Chia, dans le plan suivant, il dit, Rabbi Chia ba Adda. Alors il dit ceci, c'est que, c'est un plan d'ailleurs que reprendra plus tard le Maharal. Toute la Torah, en tant que code, se divise en 3 secteurs, en 3 dimensions. Les minzot ben Adam l'amakom, les lois qui régissent le rapport entre l'homme et le Créateur, ben Adam l'amakom, les minzot ben Adam l'ahavero, les lois qui régissent les rapports entre l'homme et son prochain, et mitzvot ben adam le'atzmo, et les lois qui régissent les rapports entre l'homme et lui-même, c'est-à-dire l'identité humaine en lui. Et nous aurons une fois un séminaire entier sur ce sujet. On ne peut pas tout dire à la fois, ça fait que Mohammed Arsina et qu'on pouvait en assembler pas dire. Mais là, en tout cas dans le 10 commandements, nous dit Aviria, c'est l'ordre d'abord Ben Adam Lamakom, ensuite Ben Adam Lachavero, et ensuite, Ben Adam Lamakom, notez bien, ensuite Ben Adam Lehatzmo, et ensuite Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire, il dit les 9 commandements se divisent en 3 catégories. Les 3 premiers des 9, la première triade, si vous voulez, régissent le rapport entre l'homme et Dieu. La deuxième triade, le rapport entre l'homme et lui-même, l'identité humaine en lui. La troisième, le rapport dans la société entre l'homme et son proche. Alors je ne parlerai que de la première triade qui concerne notre sujet. Quels sont les 3 premiers commandements, donc, après la première parole qui est introduction. Je suis Hachem, Anochi, c'est moi qui suis Anochi, Hachem Elokecha, Hachem Otsetikha Meret Mitzrayim, Mibet Avadi. Alors, s'il en est ainsi que je suis Hachem Elokecha, voici la loi. Voici la loi, tu dois être authentique, Kadosh, Tahor, Tzadik, Chassid, tu dois être authentique dans ces 3 dimensions du comportement. C'est-à-dire dans les rapports avec la source de l'être que tu reçois comme créature, dans les rapports avec l'avenir de l'identité humaine comme elle te traverse, Ben Adam et Atzmo, Etem, okay? Et puis avec l'autre créature, Ben Adam, la Haver. C'est toujours le rapport d'altérité, mais dans 3 dimensions différentes, dont une est le rapport à l'absolu, l'autre le rapport intériorisé, et le troisième le rapport social, le rapport d'altérité à proprement parler. L'analyse continue en disant, et chacun de ces 3 groupes de commandements, on a donc 3 eux-mêmes, 3 fois 3, 9, parce que le comportement est à 3 niveaux. Mahashava, Dibur, Maha. C'est-à-dire, c'est là que nous allons nous rejoindre. Mahashava, l'intention, plus que la pensée. L'intention du comportement, Dibur, la parole, Mahasé, l'acte, le faire. Donc, on dit, le plan est très simple, c'est le même commandement qu'il y a dans les 9. On s'approche de tout a été dit dans un même mot. Le même commandement qu'il y a dans les 9, mais dans 3 dimensions différentes et à 3 niveaux différents. C'est clair? Quel est le même commandement? C'est la mise à l'épreuve. Comment te comportes-tu vis-à-vis d'autrui? Je dis ici, si vous voulez, une paraphrase racidique, de type racidique. Voilà. Au fond, nous sommes toujours en relation avec l'absolu, c'est-à-dire avec Dieu comme source de l'être. Ceci étant d'ailleurs une expression de Maïmonide. Le Mehavé est un Ibrahim, plus que le Boré est un Ibrahim. Le Mehavé, celui qui fait être. Et nous savons directement, cette mise à l'épreuve directement n'est pas possible. Pour les raisons que nous avons étudiées hier soir. Parce que dès que l'histoire de l'homme commence, il faut que Dieu se cache. C'est au fond toujours en relation à lui que nous sommes, dans quelque relation que ce soit. Je vais trop vite ce soir, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'espère que vous me suivez bien. Il faut être mahazik ba. C'est ce que nous entendons. Bon, non, je ne veux pas trop aller dans les parenthèses, mais nous sommes toujours dans la même relation. Mon être fini est en relation avec l'infini dans l'histoire. Mon être de créature est en relation avec le créateur dans l'histoire. Donc toute relation, c'est celle-là qui est au fond, ou au centre, si vous voulez. Les autres n'étant que des apparences. Et pour le dire encore dans un autre vocabulaire, mon être, qu'est-ce que je dis, relatif, absolu, donc on pourrait dire aussi mon être fini est en relation avec l'infini. Mais cette relation directe m'est impossible. Parce que le partenaire de cette alliance se dévoile, alors ma liberté disparaît. Vous vous rappelez de cela, okay? Par conséquent, tout se passe comme si, là vraiment c'est la paraphrase de type pratique. Tout se passe comme si Dieu a distribué dans toute relation historique, humaine, dans toute situation, comme disent les existentialistes, cette relation-là. Il l'a distribuée dans toutes les relations de vie que nous avons. Dans une sorte de plan de mise à l'épreuve. C'est-à-dire, au fond, s'il cherche à savoir quelque chose de nous, il cherche à savoir comment nous nous conduirions avec lui si nous en étions libres, capables, le cas échéant. Et là, il ne faut vraiment pas dire le cas échéant, puisqu'il souhaite la réussite. Mais, c'est-à-dire, au fond, si on pouvait caractériser l'histoire comme mise à l'épreuve, dans le sens de test, malheureusement, ce test implique aussi, entraîne avec lui des épreuves, dans l'autre sens. Un peu comme lorsqu'on doit écrire un livre, finalement, il faut corriger les épreuves. Mais les épreuves, ça se corrige, si je le dis. Mais tout se passe comme si c'est la même question. Comment te conduis-tu avec l'autre? Si je veux savoir, ce serait le créateur qui parle dans cette paraphrase, si je veux savoir si tu mérites d'être, si j'ai bien fait de t'avoir créé, au fond, je veux savoir une seule chose. Comment te conduis-tu avec autrui? Mais la relation avec l'autre, il faut lui mettre un grand A. Dans toute relation avec quiconque, et quoi que ce soit, ça c'est chassidique, et quoi que ce soit, nous sommes en relation avec lui. Mais cette relation directe nous est impossible, donc elle est distribuée dans toutes les relations, toutes, sans exception. Avec le facteur, avec le conducteur d'autobus, et le chauffeur de taxi, même à Tel Aviv, et etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Dans toutes les relations possibles et imaginables, nous sommes mis à l'épreuve. À une épreuve dont finalement on nous donnera les critères, les indices de correction au jugement dernier. Voilà quel examen tu étais en train de passer. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, ne soyons pas terrifiés, il n'y a pas que l'attribut de rigueur, il y a grâce à Dieu aussi l'attribut de miséricorde. Donc, ne soyons pas affolés. Mais tout se passe comme si nous sommes vraiment dans l'histoire, dans une épreuve. Mais très exactement, puisque c'est l'époque des examens, dans un examen. Veiller sur, ça veut dire aussi surveiller. La hajgaha, c'est cela. Nous sommes veillés sur, mais nous sommes en même temps surveillés, exactement comme on surveille une expérience de laboratoire. Comme dit souvent le génère, c'est pourquoi il ne faut pas confondre lorsqu'on est dans le laboratoire et lorsqu'on est dans l'oratoire. Alors, je reviens donc au problème. Et c'est donc finalement, ces 10 commandements, les 9 dont je parle, c'est le même commandement. Vous voyez, l'essence de toute mitzvah est toujours la même. Que ce soit dans les dimensions de Ben Adam Lamakom, dans les dimensions de Ben Adam Leratzmo, et dans les dimensions de Ben Adam Lachavero. Et dans chacune de ces dimensions, elle est à 3 niveaux, parce que le comportement est à 3 niveaux, Mahashava, Divu et Maas. Nous allons tout de suite illustrer par les 3 premiers commandements. Les 3 premiers commandements, c'est donc dans la relation entre l'homme et Dieu. Premièrement, premier commandement, la deuxième parole, c'est quoi? Toi tu es israélien. Qu'est-ce que je veux dire? Le premier commandement, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Tu es donc vraiment israélien. Bon, moi aussi d'ailleurs. Alors là, je l'ai vu au problème. Non, ça c'est le jargon des écoles. Alors, revenons au problème. Le patois de Canaan. Voilà quel est le problème. Le commandement de l'idolâtrie est à quel niveau? Le suivant. Quel niveau? Mahashava.